I see trees of green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Charlie, écoute là-bas ou pas?
Eh oh!
Voix en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix.
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Bonjour Bernard.
Eh bien, bonjour Annette.
Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission.
Bien sûr, après des voix sur un plateau et 90 émissions écoutées plus de 27 000 fois, quand même. Eh bien, on s'est dit quand même, c'est dommage que ces voix que l'on rencontre au hasard de notre cheminement, de notre vie, de nos voyages,
voilà, ne s'étendent pas plus largement.
Voilà, qu'elles sont en expansion, c'est-à-dire qu'en fait, vous en faire profiter pour qu'elles puissent petit à petit partir dans l'espace. Alors, un nouveau slogan, un nouveau concept de notre magazine, toujours pas sérieux et non plus, voilà, avec une petite association qui s'appelle La Malle aux Libertés.
Et l'émission sera donc des voix en expansion.
Voilà, une émission faite par des bénévoles, bien sûr, et dont l'objectif sera d'être autre chose que ce que l'on peut entendre d'habitude. Alors, on a déjà dans notre sac pas mal de voix qui tournent et qui tournent et qui retournent. Alors, Annette, on a les voix, bien sûr, qu'on a entendues, qui sont extraordinaires, qu'on a pu rencontrer.
Lors de la fête de la nature à la chapelle en Vercors.
Voilà, on a aussi la voix de Jérôme Musso, qui œuvre énormément à Paris par rapport aux réfugiés. Donc voilà, donc il y a une vraie dynamique humaine autour de l'accueil du réfugié, de l'autre, du différent. Voilà, donc petit à petit, ces voix, on va vous les donner. Alors il y a beaucoup de blabla, bien sûr, puisque c'est une radio différente. Beaucoup de blabla, prêtez l'oreille, mais on peut quand même cuisiner, bricoler, etc. N'oubliez pas que vous pouvez la télécharger.
Voilà, donc des voix en extension, une émission où on a envie de faire partager ces voix pleines de richesses.
Ah là, extension, expansion.
Les voix qui s'étendent, voilà. Les voix qui en disent beaucoup.
Oui, qui en disent beaucoup. Enfin, chacun en fera ce qu'il veut, il les mettra dans ses oreilles.
Et donc, après cette musique tranquille de Iron Vine.
Ouais, peut-être, Iron Vine. En tout cas, bien sympa. Alors, on vous emmène sur le pas, les pas, j'allais dire, du renard. Une initiative très intéressante faite essentiellement par une association qui s'appelle Mille Traces, mais aussi par une personne extraordinaire qui s'appelle Dominique Naudin, qui a bougé un petit peu tout le monde autour de cet animal emblématique et souvent méprisé et pourtant bien aimé. En fait, on s'aperçoit qu'à travers cet animal, eh bien, il y a des passions. Alors, des passions qui peuvent être difficiles à vivre et des passions extraordinaires qui s'épandent, qui s'expansent en expansion, tu vois, des passions en expansion. Alors, on aura trois séries d'émissions, voire quatre.
Hein, voire quatre.
Voire quatre, avec des personnes extraordinaires. D'abord, la première émission, c'est comment on arrive à mettre en place
toute cette dynamique
qui était autour du renard. Et pour vous dire que, sans être dans le conflit, une manifestation autour de la nature qui a regroupé des voix différentes, c'était super sympa. Alors, ouvrez bien vos oreilles et vous aurez l'ambiance du Vercors.
Ok, eh bien, on est super content de les accueillir, Annette, en direct.
En direct sur cette nouvelle émission qu'on a appelée Extension de Voix.
Voilà, donc on va vous étendre, donc vous allez vous détendre. Vous êtes tranquille, j'ai l'impression que tout le monde a le sourire aux lèvres, même monsieur le maire, monsieur Jacques. Ah, d'accord, bon, le maire de La Chapelle. Donc vous êtes détendu, monsieur le maire, ça s'est bien passé, ça se passe bien?
Ça se passe très bien, correctement, et puis en plus la météo est avec vous, enfin avec nous aussi, donc
voilà. Je trouve que La Chapelle en Vercors, au cœur du parc du Vercors, a ce plaisir d'accueillir la fête de la nature. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un territoire qu'on doit valoriser, et là on valorise vraiment ce territoire.
Ah oui, entièrement, voilà. Ouais. C'est pour ça que quand on m'a proposé d'accueillir cette fête, bon, rien n'est parfait, mais la commune a fait de son mieux, les associations ont fait de leur mieux et tout, donc ça fonctionne correctement, voilà. Et puis il faut quand même savoir que la chapelle en Vercors, quand même, fait partie du Vercors ancestral, voilà, de Saint-Julien en Vercors, Saint-Martin, La Chapelle, Saint-Agnan et Vassieux, voilà.
Alors, nous avons comme invité aujourd'hui, merci monsieur le maire de nous avoir fait, c'est comme le jeu des 1000 francs, on fait toujours un petit tour avant de... Voilà, donc on a fait un petit tour de La Chapelle en Vercors, située donc au centre du cœur du Vercors ancestral, dans la Drôme. Et ce Vercors, il est extraordinaire parce qu'on va voir tout de suite, il a aussi une faune extraordinaire et aussi la réserve des hauts plateaux du Vercors. Donc c'est un lieu fantastique. On a, alors là, Jacques de l'ONF... Jacques Houllier de l'ONF, qui n'est pas que de l'ONF, qui est aussi, qui étend sa passion, j'allais dire, de son métier, à d'autres passions. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Alors Jacques, ce Vercors, tu es arrivé comment et tu es là, qu'est-ce qui te passionne ici?
Alors, je suis arrivé comment? Je suis arrivé en 98 de ma Lorraine natale. Et donc voilà, j'avais passé une partie de ma carrière... en Lorraine.
Et carrière en forêt, toujours.
En forêt, oui, bien sûr. Et j'aspirais à trouver des espaces naturels un peu plus conséquents.
D'accord.
Et ben, mon choix s'est tourné vers le Vercors. C'était un peu les Cévennes au départ. Et puis, ben, ça n'a pas pu se faire. Et donc, il y a eu le Vercors, dans lequel j'étais venu quelques fois auparavant. Et qui m'avait séduit tout de suite, quoi.
D'accord.
Et donc j'ai eu cette opportunité de.
Et dans le cadre de ton métier et aussi dans ta passion, tu le découvres en permanence. Il y a toujours quelque chose d'autre à voir. Qu'est-ce que le Vercors pour nos auditeurs en fait, au niveau de la faune, la flore, pour qu'on s'imagine un petit peu.
Ben, le Vercors c'est une forteresse naturelle, déjà par son relief. Et puis par sa diversité, sa biodiversité, sa forêt qui est immense, hein. Il y a de la forêt quasiment partout, des espaces encore vierges aussi, notamment sur les hauts plateaux, où donc on a très peu d'infrastructures humaines, et donc on a ces paysages, ces territoires-là qui sont encore...
Préserver
et
aussi.
Qui le sont hein, aussi. Et bon, il y a une diversité, une multitude là, de, l'espèce animale, végétale.
Alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce que le Vercors ? Alors, on a l'espèce, des espèces emblématiques, bien sûr, mais on a l'impression qu'ici, on peut parler de toutes les espèces. Elles sont toujours de pachasse sur le Vercors. Est-ce vrai ? On m'a dit, le Vercors a tous les ongulés de France. Alors, ongulés, oui. C'est pas une insulte. Hein.
Non, du tout. Non. Les 6 ongulés sauvages de France sont présents, oui, sur le Vercors. Oui.
Alors, les ongulés, parce que là, c'est le jeu des 1000 francs. Ting ! Ils y sont tous, les ongulés, c'est sûr ? On va voir.
Ah oui, ils sont
allons-y,
tous.
Allons-y, il reste quelques secondes.
Sanglier, cerf, chevreuil, chamois, mouflon, bouquetin.
D'accord.
Voilà.
Pourquoi on les traite d'ongulés ?
Ah ben toi-même. Pardon. C'est deux fois que tu me le fais. Effectivement, parce que c'est l'appui qu'ils ont, et ils ont simplement, des ongles, voilà, c'est des ongles, d'accord. C'est pas un sabot.
Alors là, nous avons deux mycnodes.
C'est un sabot, mais pas fermé. Voilà.
Jacques Houillet, donc, j'ai présenté ONF, mais aussi de l'association Miltras. Miltras, oui. On va voir le président tout de suite. Alors, ils se battent pour savoir qui est-ce qui va gagner le gros lot. Bonjour, alors, on se connaît pas trop, mais...
Bonjour, non.
Vous voyez, le président de Miltras.
Voilà, Laurent Guirand, président de Miltras depuis 2 ans maintenant. Miltras s'est implanté sur le Vercors maintenant depuis une vingtaine d'années. L'association a 25 ans et est implantée quasiment depuis 23 ans sur le Vercors et au moins depuis 20 ans sur le canton de la Chapelle. Voilà, donc association naturaliste, donc bien sûr sur l'environnement, sur la faune, sur la flore, dont le souci principal c'est la protection bien sûr de cette faune, de cette flore par différentes actions pédagogiques, exposition, actions au niveau des scolaires, actions tout public, missions aussi scientifiques, analyse de biotopes, enfin, voilà toutes les facettes de nos interventions.
C'est une légende amérindienne qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt. Et tous les animaux étaient atterrés, ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, alors lui, à l'occasion de cet incendie, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment, le tatou, énervé par ce mouvement, lui dit mais qu'est-ce que tu fais, colibri ? Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau. Et le colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part.
Le globe semblable à la forêt qui s'enflamme au-delà de l'orée, sans épargner aucune contrée. Pour un bout de métal doré, pour quelques pièces de monnaie, voit sacrifier son harmonie. Sur des cendres va trôner pour étendre son hégémonie à l'agonie. Le feu réduit peu à peu toute forme de vie. La symphonie de l'égoïsme attise le brasier qui sévit. Quand souffle le vent de l'ignorance et de la peur, s'insuffle le sang de la haine, de l'arrogance dans les cœurs. Des corps sombres qui baignent dans une fumée opaque, des corps sombres s'éteignent, paire de pieds dans un cloaque. Quel que soit l'hémisphère, y'a ni personne n'est épargné. De l'effroi plein les viscères, vient l'addition nette à payer. Tout issu paraît fatal, la fin ne sera pas triomphale. Où est le tissu de main tendue, tout ce qui crée du lien social. Quand le dernier arbre sera coupé, la dernière rivière asséchée, telle la jungle calcinée, Gaïa se verra assassinée. Et pourtant, colibri vole quand tant d'autres se désolent. Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre. N'emportant avec lui que ça part infime, sans dombol. Pour le changement, petit colibri en restera le symbole. Et pourtant, colibri vole quand tant d'autres se désolent. Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre. N'emportant avec lui que ça part infime, sans dombol. Pour le changement, petit colibri en restera le symbole. Mais quoi faire et quoi dire en ce marasme des consciences, à part se taire et subir le sarcasme des puissants, des bains de sang aux bêtes de somme. Même logique assemble les masses entre innocents et responsables. L'humain se cache derrière un masque. Vient la suite de la légende, la peur, l'inertie qu'elle engendre. Ce qui arrive à trop entendre, leurs médias, leur propagande. Et même si la colère monte, combien iront créer les meutes. Et même si le tonnerre gronde sur le feu, il n'est pas dit qu'il pleuve. Majorité passive et neutre, contemplant le spectacle, impuissante, écoutant l'oracle d'une piètre pièce de théâtre. Pendant qu'autour, ça crie au secours, vit en danger jusqu'à sa source. Des pantins avec les sourds restent pris dans une même course. La bourse ou la vie, ici nombreux ont déjà choisi. Face à l'incendie, peu reste, beaucoup en déguerpit. Tandis que la fumée s'épaissit, même si la foule est avertie. Qui suivra le colibri, se mettra en route vers l'utopie. Ce vers quoi colibri vole quand tant d'autres se désolent. Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre. N'emportant avec lui que ça part infime, sans dombol. Pour le changement, petit colibri en restera le symbole. Ce vers quoi colibri vole quand tant d'autres se désolent. Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre. N'emportant avec lui que ça part infime, sans dombol. Pour le changement, petit colibri en restera le symbole. dès la première étincelle refusent que la forêt disparaisse. Et ce malgré leurs sentinelles russes pour détruire leur forteresse. Attire d'elle évitant les flammes, transportant son précieux colis. Point vers le ciel face au drame d'un temps propice à la folie. Liberté abolie, répression qui s'élargit. Suit tout discours assombri que gobe la masse en léthargie. Réagir pour ne plus subir et prendre en main son devenir. Plutôt que fuir et laisser faire, rendre enfin son dernier soupir. Suite et fin de la fable, petit colibri a convaincu par sa modeste part de ne jamais s'avouer vaincu. Et si chacun prend part, chaque compétence est une issue vers le changement, l'évolution d'un monde qui tourne à notre insu. Ainsi s'achève le récit, le miroir, la métaphore d'un système qui se réduit à n'ouvrir que la boîte de Pandore. Vois en toi-même ta solution, se complète avec celle des autres. Peu importe ce que tu amènes, dans chaque main se cache un trésor. Trésor. C'est pourquoi colibri vole quand tant d'autres se désolent. Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre. N'emportant avec lui que ça part un film sans dombole. Pour le changement, petit colibri en restera le symbole. C'est pourquoi colibri vole quand tant d'autres se désolent. Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre. N'emportant avec lui que ça part un film sans dombole. Pour le changement, petit colibri en restera le symbole.
Vous êtes installé depuis 25 ans, ou 20, c'est ça, 20 ans, enfin...
Et oui, c'est quand même les 25 ans de 1000 traces cette année.
50 000 traces. Est-ce que vous voyez ce rapport à la nature changer, c'est-à-dire entre le public et vous, naturaliste, j'allais dire pédagogue?
Ah, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on peut considérer que la question, dans un large sens environnemental, les préoccupations progressent à tous les niveaux de la société. Ça, c'est une réalité. Et en même temps, la pression humaine, la pression sur la faune et la flore n'a jamais été aussi forte. Voilà, en termes de dégradation, de pollution, voilà. Donc, il faut vraiment être plus que vigilant. Les actions sont nécessaires.
Monsieur le maire, sentez-vous ça, vous aussi, dans votre...
Oui, c'est exact, on le ressent nous-mêmes. Oui, c'est vrai qu'on en parle assez souvent, si vous voulez. Ce territoire, c'est les aînés qui nous l'ont confié, qui nous l'ont transmis. Mm-hmm. Voilà. Et on a certaines difficultés, nous-mêmes, maintenant, à le gérer. Il faut qu'on travaille tous en bonne intelligence. Ils nous ont transmis ça, si vous voulez. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, voilà. Mais ils avaient beaucoup de réflexions et tout. Et
nous, actuellement, il y a quand même une évolution.
Une évolution, mais elle n'est pas forcément toujours comme on la souhaiterait.
D'accord. Voilà. Par exemple, la réserve naturelle, c'était un pas de tir pour l'armée et les gens allaient se balader. C'était quand même... On voit que ça a énormément changé quand même.
Ah oui, oui, oui. C'est maintenant la plus grande réserve de France. Et bon, la plus grande partie, elle est sur nos territoires des 5 communes. Voilà, bien sûr, avec l'Isère, Villard-Lans et tout, mais... Voilà, c'est un patrimoine que les aînés ont su préserver et que nous, on essaye de maintenir et on essaye d'équilibrer. Voilà.
Alors, le Vercors, on s'en doute, vit aussi du tourisme et des gens qui viennent, j'allais dire, pour le plaisir. C'est un poumon vert de Lyon, Grenoble aussi, mais
bien
Valence,
sûr, ouais.
Où beaucoup de personnes viennent du Vercors, dans le Vercors, pardon. Et vous, la chapelle en Vercors, on voit, il n'y a pas trop d'installations touristiques. Vous êtes encore nature de fait. Est-ce que vous sentez vraiment cette envie, les gens, quand ils viennent ici, de retrouver cette nature?
Oui, mais on essaye aussi de la préserver. Vous voyez, on attire le touriste, les 5 communes attirent le touriste, parce que quand même, c'est un atout financier, il ne faut pas le cacher non plus. Mais il faut qu'on... C'est cet équilibre. Je pense qu'en travaillant en bonne intelligence, on devrait y arriver.
D'accord. Donc, aménager en douceur... pour que les gens puissent venir, parce qu'il y a énormément de gîtes ruraux, ça fait partie de l'économie. Il y a aussi ce problème de réchauffement climatique, on l'abordera un peu après, au niveau des activités d'hiver. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils viennent l'hiver, ça devient délicat en moyenne montagne, ou pas?
Non, en moyenne montagne, on a quand même des atouts maintenant. Bon, il ne faut pas parler de ski alpin chez nous, parce qu'avec le réchauffement, déjà, on était léger, mais maintenant, je pense que ça va pratiquement l'oublier. Mais bon, on a quand même le ski de fond, on a les raquettes, on a aussi une activité mufière, chien de traîneau, quand même, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, on a la randonnée toute bête, hein, si vous voulez, basique, de famille, de randonnée, pour faire des photos et tout, et pour s'oxygéner. Voilà, nous, il faut que ça reste un atout familial, voilà, mais en restant dans un contexte économique qu'on puisse accueillir, voilà, modérément, si vous voulez. Il ne faut pas non plus tomber... Dans l'excès de tourisme.
Voilà. L'excès de tourisme pour tourisme.
Exactement.
Voilà, un tourisme doux et tranquille. pour préserver aussi la nature et l'environnement.
Bah oui, parce que bon, on a des petits-enfants, on a des arrière-petits-enfants, il faut penser à l'avenir, comme les autres ont pensé à nous, sinon on n'aurait rien du tout.
Alors je voulais faire le lien avec la photo, puisque la photo est une activité à part entière, j'allais dire, de loisir pour toi, Dominique, mais ça devient de plus en plus, elle te gratte de plus en plus, comment ça se passe?
Bah disons que oui, moi la photo, ça a démarré il y a 20 ans, j'ai toujours été passionné et attiré par la nature. Je suis arrivé sur le plateau du Vercors il y a 30 ans. J'étais chasseur,
un passionné de nature.
J'ai juste troqué mon fusil contre un appareil photo parce que ça me convenait mieux et puis c'est tout. Mais voilà.
Le Vercors te l'a bien rendu. Quand on regarde ces photos, on voit qu'il y a vraiment un regard, j'allais dire, de renard, comme on pourrait dire, qui est là. On viendra tout à l'heure sur le renard, mais c'est vrai que tu découvres encore les instants magiques du Vercors. Parce que ce territoire, il est magique. Et c'est vrai que Miltras le met en avant, d'autres associations naturalistes le mettent en avant.
Bien sûr.
Mais j'ai l'impression que justement ce lien avec le public, puisque c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, c'est encore à développer, doucement comme disait monsieur le maire. Mais on sent qu'à chaque fois, il y a cette volonté d'aller encore un peu plus loin dans le contact, dans la relation avec la nature. Et c'est ce que tu fais de plus en plus. Alors,
c'est ce que je fais de plus en plus parce que c'est comme tout le reste, hein. On affine ses connaissances, que ce soit envers les animaux ou envers les gens. Mm-hmm. Voilà. On prend de l'âge, on devient raisonnable. Et puis on partage plus facilement peut-être ses connaissances avec les gens. Quoi. Parce que les gens sont peut-être plus sensibles aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique dont tu parlais tout à l'heure. Et puis il y a quand même, je pense qu'il y a une dynamique, on est tous amoureux de la nature, quoi qu'on fasse, que ce soit de la chasse, parce que ça fait partie aussi de l'économie locale, du jardinage, de l'apiculture, si vous faites des abeilles, voilà. On a tous besoin que ça fonctionne correctement.
Et justement, cette fête de la nature le montre bien, une belle dynamique, beaucoup d'énergie qui ont été mises en place par tous les bénévoles et autres. Et le résultat est là quand même aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde.
Oui, c'est bien, il y a du monde, ça bouge, les gens ont l'air contents. Alors, c'est bien, ça se passe bien. Comme disait monsieur le maire, on a la météo pour nous. Hein. Vraiment là, c'est on peut pas rêver mieux. Le Vercors est tellement beau quand le soleil brille.
Il y a trois jours, il neigeait à Vassieux, je ne veux pas vous faire peur.
C'est ça.
Alors, c'est Vassieux. Ce moment qui est venu un petit peu pendant les fêtes, c'est une journée de la nature, c'est au niveau national.
Oui.
Hein, c'est ça.
Oui.
Et d'un coup, il a émergé cette idée de faire quelque chose. D'abord, il y avait d'autres fêtes de la nature que Miltras a organisées et d'autres associations nature, certainement.
Oui.
Mais là, vous avez pris un emblème. Alors, pouvez-vous nous parler de cet emblème? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup? Parce qu'on a l'impression que cet emblème vous porte.
Oui. Bah, disons que c'est un emblème, oui. En fait, pour la petite histoire, on s'est trouvé avec un copain à faire un constat un petit peu alarmiste et alarmant parce que le renard est un allié et pas un ennemi. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il est un allié dans l'agriculture, hein, notamment. Moi, je trouvais qu'on dégommait trop facilement du renard sur notre commune et je trouve ça pas très bien, quoi. Voilà. Après, c'est ce constat de colère avec mon ami Manu qui nous a poussé à rencontrer Jacques, qui nous a écoutés. Puis Jacques est quelqu'un de très calme, très passif. Donc, il a dit, écoute, oui, pourquoi pas. Donc, on se fait une réunion. On rencontre l'association Miltras, on en discute, et émerge, on fait la fête de la nature, et pourquoi on ne ferait pas une grosse fête de la nature avec tout le potentiel qu'il y a aujourd'hui. Hein,
alors il y a un énorme renard qui siège juste derrière nous, qui est magnifique, construit, donc je crois que Jacques était dans le coup.
Ah oui, complètement dans le coup d'ailleurs.
Alors Jacques et ton ami, vous étiez plusieurs, enfin je sais pas où j'étais à la première réunion, vous étiez plusieurs à faire ce renard là. Hein, vous êtes associé un peu, oui, plus ou moins. Beaucoup tout seul, c'est bien, en tout cas tu avais des mains qui ont travaillé énormément, c'est magnifique.
Il y a eu d'autres créations là au niveau au niveau des renards, des renards en bois, des renards en papier, des renards...
C'était pas une provocation, alors, de...
Du tout, non, c'était pour
Parce qu'on peut dire, ce renard qui est peut-être haï par certains, c'est pas une provocation de l'avoir mis au milieu.
pas une provocation, mais...
une réflexion.
Oui, tout à fait. Et puis, voilà, essayer de voir qu'il y a un souci avec cette espèce, ici, et dans d'autres régions aussi. Et c'était pour le mettre un peu en valeur, et d'essayer de réfléchir un peu, de parler, de discuter, de comprendre un peu pourquoi voilà, ce pauvre renard est maltraité parfois. Et donc voilà, c'est le but, il est là, c'est essayer de remettre le renard dans son juste...
Alors toi qui viens des Vosges, moi j'avais entendu il y a quelques années de ça, quand j'étais enfant, il faut tuer tous les renards, c'est les vecteurs de rage, ça venait par là-bas, des pays de l'Est.
Tout à alors, fait, oui, d'Allemagne.
Alors, ouais, voilà, donc ça c'est du temps révolu.
Oui, la rage n'existe plus, elle n'est plus présente en Europe, et donc il n'y a plus ce souci de vecteur de la rage qui est le renard. Hein. Et donc il n'y a plus ce problème. Maintenant, par rapport au renard, c'est vrai que un poulailler qui est mal fermé, il essaiera d'aller se nourrir.
Il est opportuniste.
Tout à fait. Par contre, ça reste quand même anecdotique. Après, les bienfaits du renard, enfin, au niveau de la consommation de micro-mammifères par rapport à l'agriculteur, c'est énorme. Quoi. 80% de son régime alimentaire, ce sont des micro-mammifères, hein, des mulots, des campagnols.
Alors, est-ce qu'il y a des régions qui ont lutté contre ça, qui ont changé un peu la donne? Est-ce que ça existe en France, ce type de retournement un petit peu des personnes, enfin en tout cas des réactions, j'allais dire politiques, hein, j'allais dire locales.
Oui ça existe. Hein. Là, vous avez un court-métrage qui passe, qui est de Franck Vigna, donc qui a créé un collectif Protection du Renard Grand Est. Donc ça bouge, les choses bougent tout doucement. On arrive à avoir un peu des résultats parce que effectivement la population s'indigne un petit peu de voir ce renard aussi maltraité. On va dire que les gens sont quasiment modérés dans leur comportement.
Il suffit qu'il y ait quelques personnes qui sont moins modérées, c'est la catastrophe.
Oui, alors quand je veux dire modérés, en fait, c'est pas qu'ils ne tuent pas, c'est qu'ils ne mettent pas leur trophée, entre guillemets, comme vous pouvez le voir dans les photos qui sont là-bas. Une fois qu'il a été tiré, ils le pendent dans un arbre et ils le jettent dans un buisson. Enfin, voilà, ça va au-delà du vice de tir, quoi. Hein. C'est vraiment dire, voilà.
J'ai déjà vu, malheureusement, j'ai pas fait photo, de renards pendus dans des grillages ici. Hein.
Ici aussi, oui. Mais bon, ça arrive. Hein,
Monsieur le maire, vous qui êtes, j'allais dire, imprégné d'ici depuis votre temps d'enfance, le renard, il était ici, comment ça se passait?
Ah, le renard, on a toujours eu, forcément, voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez, ça, les mentalités bougent un peu et tout. Mais peut-être aussi qu'il a été un peu oublié, qu'il a progressé en nombre assez maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut l'équilibrer, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. On a le même problème malheureusement avec le loup et tout. On a des difficultés actuellement à s'équilibrer. Voilà.
Les naturalistes, le renard, faut l'équilibrer.
Bah, disons que,
je crois que ça, c'est chaud quand même un peu
ouais,
ça.
Ouais, mais
pour un naturaliste.
Ouais, en fait, je vais peut-être un peu aller à l'encontre parce que, en fait, le renard
est. C'est l'objectif.
Oui,
hein,
non,
c'est
mais
l'objectif de.
Le renard est une espèce qui se régule toute seule, en fait. Hein, c'est une espèce qui a une capacité, donc qui a un territoire qui lui est donné. Et si la femelle s'aperçoit que ce territoire est occupé par ses congénères, ben, elle fera un, deux petits. Et sur ces un ou deux petits, il en a peut-être point qui arriveront à l'âge adulte ou peut-être qu'un. Si, par exemple, là. Du territoire d'avance et qu'elle sait qu'elle va pouvoir nourrir ses petits, elle en fera 6. Donc elle a cette capacité de gestation.
Oui, mais contrôlée. Là c'est les animaux, c'est la nature. C'est la nature, heureusement, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'équilibrer.
Voilà.
Eux-mêmes.
Après, voilà.
Voilà. Mais des fois, ça déborde un peu plus.
D'accord. Oui, il y avait d'autres choses à rajouter à ce niveau-là. Qu'est-ce que par rapport à l'espèce ou
Non, pas uniquement par rapport à l'espèce. Disons que sur les espèces, la faune sauvage en général, bon, la fête, on a pris comme emblème le renard, parce que bon, pour toutes les raisons qu'on a dites. Après, ce qui est derrière, c'est la problématique de la faune sauvage en général. C'est vrai que sur le Vercors, on a une nature qui est encore préservée, une faune qui est riche, mais qui subit malgré tout des pressions importantes. touristiques, chasse et autres constructions. C'est le problème. Ce problème, c'est le rapport à la faune sauvage. On a malheureusement en France un rapport à la faune sauvage qui est un peu difficile. Et toute présence de faune sauvage est immédiatement perçue comme concurrentielle à l'homme. On a beaucoup de mal à réfléchir à des cohabitations. Donc le but, c'est de discuter et de d'équilibrer. C'est pas de dire oui, on est pour ci, on est pour ça, mais c'est d'essayer de discuter sur la cohabitation homme et faune sauvage. D'accord. Qui me semble indispensable dans un monde bien D'accord. organisé. Quoi.
Llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín.
Alors, Annette, toi, tu as encadré des séjours d'enfants dans les Abruzzes. Dans les Abruzzes, donc, qui est une région donc, un peu au centre de l'Italie, là, entre Rome et Naples, dans ces montagnes qui ressemblent fortement au Vercors. Et il y avait beaucoup d'animaux, notamment du loup, qui, quelques temps après, est venu par ici. Comment ça se passait à Pescasseroli? Comment les gens vivent avec toutes ces espèces? Ours, loup, renard, bien sûr.
Alors effectivement, hein, dans les Abruzzes, il y a une similitude impressionnante avec le Vercors au niveau espace, environnement, etc. Sauf qu'une des grosses différences, c'est effectivement, il y a du loup, il y a de l'ours, et qui est toléré. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des zones complètement interdites à l'homme de protection sauvage. Ensuite, eh ben, il y a des espaces autour qui sont gérés. Les bergers, par exemple, ont des troupeaux plus petits et surtout, ils les rentrent tous les soirs.
D'accord. Est-ce que tu as eu peur avec les enfants de toute cette faune? Parce qu'on voyait, c'est les Abruzzes à Pescasseroli, c'est station de ski, on est en moyenne montagne et il y a vraiment un effort qui a été fait. Alors, je fais le lien avec la chapelle en Vercors parce que c'est vrai que ça ressemble énormément. Je me rappelle que quand il y avait un projet d'ours, il y a des gens qui faisaient un peu le lien. Est-ce que vous, vous êtes déplacé avec vos groupes d'enfants au sein des Abruzzes?
Oui, bien sûr. Peur, non, pas du tout. Les jeunes, les enfants, oui, parce qu'en fait, c'est l'image qu'on donne, effectivement, du loup, par exemple.
Les enfants des Abruzzes.
Mais les enfants des Abruzzes, ils n'ont pas peur. Ils vont à l'école à pied, etc. Enfin, voilà, hein, l'hiver, sous la neige, ils ne se posent pas la question s'ils vont croiser le loup.
Alors, on retrouve un peu ce Vercors ancestral, mais par contre très moderne, puisque c'est vrai que les Abruzzes ont une implantation touristique autour de la faune sauvage qui est quand même assez riche. Est-ce que vous, vous imaginez ça sur le Vercors? Je suis un peu provocateur, bien sûr.
Oui, de toute façon, l'équilibre, comme j'ai dit tout à l'heure, on le recherche. C'est vrai que nos bergers, ils avaient perdu l'habitude, on va dire, de sécuriser et tout. Parce que de toute façon, les loups avaient disparu. Les anciens, pour des raisons, je pense qu'ils avaient, à l'époque, pas tellement eu le choix. Ils les avaient exterminés, un peu comme l'ours, vous voyez. Bon, maintenant, c'est... Bon, l'ours, bon, pour le moment, on n'en a pas, j'espère quand même. Parce que le territoire, quand même, on a des gens, comme on a dit, des touristes et tout. On n'a pas un territoire immense, je pense, pour recevoir le l'ours. L'ours, mais le loup, bon, il y est. Écoutez, on va essayer de s'adapter. C'est ce qu'on a fait. Ouais, voilà. Bon, c'est un budget qui est assez lourd aussi, financier, quand même. Hein, parce que, bon, on a mis des aides bergers qui ont payé...
C'est pas facile de trouver ces moutons égorgés par une bête. Et ça, c'est clair que c'est un problème.
Voilà, exactement, quand même, voilà. Donc, moi, j'ai des personnes, moi, qui sont venues pleurer quand même dans mon bureau, qui sont vraiment travaillées et tout. Pas pleurer, mais vraiment, c'est le terme. À la limite de la déprime, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et nous, pour les aider, ce n'est pas facile non plus. Voilà. Mm. Bon, voilà, c'est ça. Je pense que les bergers avaient perdu l'habitude. Et après, ça crée quand même quelques contraintes. On perd aussi des mois de location, si vous voulez, comme nous, la commune à Darbenouze, là. Voilà.
D'accord, donc voilà, vous perdez des mois de location parce que, en fait, vous ne pouvez pas louer le terrain là-bas.
Voilà. Donc, moi, j'y vais assez souvent. Les bergers, je respecte comme tout le monde, vous voyez.
Bien sûr.
Donc, ils ont des craintes. Quand ils mettent leur troupeau à l'abri, si vous voulez, du soleil et tout, et ben, même en pleine journée, ils ont des pertes. Ça met quand même. Après, les prairies vont perdre aussi parce que la forêt va reprendre. Enfin, on rentre dans un cercle assez compliqué. C'est pour ça que
rien n'est facile. Il y a une gestion.
Voilà.
Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être des professionnels, non, de la gestion un peu de l'environnement?
Alors, concernant le loup, bon.
Loup, renard et autres dérangeurs, j'allais dire.
Oui. Bon, on a des espaces, enfin un espace ici, le Vercors, qui est suffisamment vaste et giboyeux, entre guillemets, pour permettre la cohabitation, enfin, d'espèces super prédatrices, hein, comme le loup, et pourquoi pas l'ours, le lynx, qui est proche aussi, hein, qui fait des apparitions de temps en temps. Au niveau gestion forestière, bon, on a un peu des soucis avec les grands ongulés, notamment le cerf, un petit peu, enfin, mais c'est plus au niveau agricole avec les populations de sangliers qui montent un peu en flèche. Et on a des chasseurs, hein, qui prélèvent donc du gibier, et on a le loup qui arrive, enfin qui est là depuis quelque temps maintenant, et qui joue son rôle de super prédateur, donc en prélevant donc les animaux faibles, les jeunes, les anciens, et qui joue vraiment son rôle de super prédateur en prélevant ses bêtes et donc en limitant les regroupements de cervidés notamment. Mmh. En éclatant donc les populations, ce qui permet d'éviter certains problèmes de régénération dans nos forêts qu'on pourrait avoir et qu'on a eu déjà. Hein, et donc pour le forestier.
Donc il y a cette relation de la grande nature, j'allais dire la nature sauvage, oui. avec les siens, j'allais dire avec les cervidés et autres. Oui. Le problème qu'on a vu aussi dans la petite pièce de théâtre, c'est la relation avec l'homme. La difficulté, c'est parce que, par exemple, les cervidés sont aussi, je vois sur Lente et autres, un rapport financier intéressant. Donc, j'imagine que si un loup mange un cerf, c'est aussi peut-être du moins gagné ou pas pour.
Oui, mais on est dans une période là où on a des populations de cervidés qui sont montées assez haut hein, en densité. Et donc on a des soucis. On prélève hein, par l'intermédiaire des chasseurs donc du cerf, mais pas suffisamment par endroit. Et par endroit, on n'arrive pas à faire non plus tout le temps les plans de chasse qui sont attribués. Et le fait que le loup soit présent donc permet aussi donc de limiter
C'est une difficulté pour le naturaliste toujours d'être en même temps dans, j'allais dire, de convaincre ou pas la population. Comment vous faites en fait à mille traces?
Je voudrais juste revenir un petit mot sur oui. le rapport du loup à l'élevage. Le pastoralisme en général, l'élevage du mouton, les éleveurs de moutons aient des difficultés actuellement. Le loup sert pas mal de bouc émissaire. Au niveau de l'évolution des troupeaux sur le Vercors, ce qu'il faut voir, c'est que les troupeaux qui viennent en estive sont les troupeaux qui viennent de la plaine de la Croix. Et en l'espace de 15-20 ans, il y a eu une augmentation du nombre de bêtes sur les plateaux et une diminution inversement proportionnelle du nombre de bergers par rapport au nombre de bêtes. On arrive à des troupeaux où un berger s'occupe seul de troupeaux qui tournent autour de 2000 bêtes. Donc il y a un problème, il y a aussi un problème de...
On n'est pas dans les agro-usages.
Donc c'est assez compliqué, le problème est complexe et ne peut pas se résumer juste à dire, bon c'est vrai que le loup fait du prélèvement, mais il y a aussi un problème d'organisation, comme l'élevage a évolué et avec pas toujours dans le bon sens. Un autre chose par rapport au loup, moi j'ai travaillé à 30 ans sur le Vercors à Vassieux dans l'élevage de moutons et on avait des problèmes de prédation mais de bêtes abîmées par des chiens errants et à l'époque à 30 ans il n'y avait pas de loup sur le Vercors. Dans la ferme où je travaillais, il y a eu 30 brebis qui avaient été tuées par des chiens et il n'y avait pas de loup à l'époque. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque de loup, mais il faut mettre les choses de réflexion, il faut mettre tous les éléments de réflexion.
Moi, connais quelqu'un qui est très content, en fait, finalement, indirectement, il me dit, grâce ou pas, en tout cas, il a pu avoir un financement et il peut rapprocher un petit peu sa famille qui peut l'aider grâce au loup, finalement. Il a des financements pour être plusieurs à surveiller ses moutons. Est-ce vrai?
Oui, mais je ne sais pas le cas particulier, mais toutes les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour aller dans le sens d'une bonne évolution, de réfléchir ensemble. Le but, c'est de réfléchir ensemble. C'est pas de désigner un bouc émissaire. Il est hors de question de dire oui, les bergers font pas leur boulot, les éleveurs font pas leur boulot. Non, le but, c'est de réfléchir ensemble. Moi, ça me semble dans la défense de ce que je disais d'ailleurs sur la faune sauvage. Je pense que aujourd'hui, au XXIe siècle, on doit pouvoir imaginer une cohabitation avec la faune sauvage en dépassant des raisonnements qui sont un petit peu moyenâgeux. Il faut, d'accord. On a les moyens techniques, humains, de réfléchir ensemble à des solutions.
On le voit dans cette fête de la nature qui est un côté très positif, en tout cas, et qui permet de s'ouvrir à tous, justement, pour ouvrir. Et monsieur le maire, vous avez ouvert sans inquiétude.
Non. De toute façon, il y a une réflexion à mener. C'est un fait certain. Hein. Après, il ne faut pas créer non plus une psychose
de polémique trop forte.
Mais par contre, moi, j'ai des bergères et tout sur la commune là, qui sont un peu sortent les moutons juste derrière chez moi. Bon, cet hiver, j'ai eu des attaques de loups à 80 mètres de ma maison. Bon, c'est pas, faut pas. Bon, il a pris une biche. C'est pas le problème. Mais maintenant, quand ils sortent leur cheftel et tout, il y a des brebis et tout, ça met une anxiété, vous voyez, c'est ça.
Je comprends, on passe d'un milieu où on était un peu plus tranquille parce qu'il n'était plus là, au moment où il arrive et que finalement, voilà, là, ce matin je suis arrivé sur la route, il y avait des chefs de partout, je venais de la Sieux. Il y avait des chefs de partout, c'était assez dangereux pour les voitures, hein, faut le dire aussi. Mais c'est vrai qu'il aurait pu y avoir un prélèvement. Voilà, ça peut être un peu dangereux, mais le loup en lui-même n'est pas dangereux, Dominique, hein, on est bien clair. Alors, sur cette fête de la nature, vous avez mobilisé beaucoup de t-shirts verts au nom de 1000 traces. Je vois que vous êtes assez nombreux. Donc, la commune vous a mis des moyens aussi. Donc,
La commune n'a pas mis des moyens financiers, il a mis des bâtiments
c'est
à
énorme.
Disposition.
Merci, monsieur le maire. Ouais, voilà, merci, voilà, en tout cas. Voilà. Parce que...
Donc, oui, c'est vrai, quand j'ai fait les totaux, que j'ai dit oui, j'avais réfléchi, ça fait une belle somme d'argent.
Bien sûr.
On en a parlé au conseil et tout, là, bon, dans la majorité, ils étaient d'accord sur le fonctionnement. J'estime que c'est normal, on est, comme je vous ai dit, au cœur du territoire.
On voit bien que la commune de La Chapelle est très dynamique, énorme, j'allais dire, rassemblement sportif aussi qui ont lieu ici, parce que c'est intéressant. Voilà, on voit bien que ce dynamisme-là, il est à travers différentes manifestations. Vous êtes un lien un petit peu avec la ville où ils n'ont pas évidemment ce territoire-là, c'est-à-dire que ça peut être pour les vététistes, j'ai vu une course de cycliste, je vois des courses à pied, énormément de choses qui se passent.
Ah, oui.
Donc vous êtes toujours dispo pour aider ce genre d'association. Il y a des retombées, vous êtes pensé au niveau local sur des petites...
Je pense qu'il y a des retombées. Si vous voulez, ce matin j'ai fait le tour un peu des commerces, j'ai bu le café et tout. Voilà, les gens sont quand même satisfaits. Ça crée, on peut dire, des nuisances de circulation et tout, mais les commerçants, ils s'adaptent volontiers.
J'ai l'impression qu'il y a une forme d'habitude. Hein. La route est barrée, mais c'est parce qu'il y a la course ou il y a la fête de la nature.
Exactement.
D'accord, super. Bah, merci en tout cas, cette commune, d'être dynamique. Sur tous les points de vue, hein, je pense que ça ne va pas être facile de prendre une décision, de dire « Ah, on va faire la fête de la nature ». 1000 traces, vous êtes bien imprégné dans le paysage, vous dites depuis plus de 20 ans sur le Vercors. Je pense que c'était bien aussi de sortir un petit peu de votre tanière d'ours et de venir sur le cœur du Vercors ancestral, comme dirait monsieur le maire.
Tout à fait. Pour en revenir sur deux points, sur les t-shirts verts, bah c'est l'association ne n'existe que par les bénévoles.
Pardon. Alors là, il y avait pas mal de monde.
Donc tous les gens en t-shirt vert sont gens bénévoles de 1000 traces. 1000 traces est une association qui fonctionne sans aucune subvention de fonctionnement, donc qui existe que par le travail de ces bénévoles. Et autre aussi, pour répondre à monsieur le maire, nous remercions beaucoup monsieur le maire de La Chapelle de son accueil en termes de disponibilité, sur les barrières, sur les arrêtés municipaux, sur les salles. C'est vraiment très agréable d'être accueilli comme ça. Et ça, je vous en remercie au nom de l'association. Pour ce qui est de faire la fête de la nature à La Chapelle, on n'est pas très loin, on est basé à Rousset. Et ça nous semblait important de faire ça ici, parce que c'est central, parce qu'il y a plus de monde. Et puis aussi, parce que vous parliez de la fréquentation touristique, c'est sûr que ça fait, cette fête de la nature, on la prépare depuis 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on en parle, que sur les réseaux sociaux, on envoie des informations. Donc ça fait 6 mois qu'on parle de La Chapelle en Vercors, dans plein d'endroits. Alors, il y a des photographes qui viennent de Paris.
C'est magnifique,
des gens...
hein, c'est le nombre de personnes que vous avez réussi. Parce que je me disais, ça va être difficile, puisque c'est national... de, par exemple, d'avoir des cinéastes comme Dominique Todin va nous en parler tout à l'heure, mais j'ai des cinéastes de renom, des photographes de renom, au moment où c'est national. Alors ça a dû être pas facile, parce que c'est vrai qu'il y a des fêtes de la nature de partout le même jour. Je pense que c'est peut-être même, si, vu le plaisir que les gens prennent, ça peut être le décaler un peu, parce qu'on devait être pris, les gens de Romans, entre la fête de la nature de Romans, la fête de la nature de leur coin, en fait les gens qui sont passionnés par la nature et les autres, peut-être, juste une supposition, mais de dire que cette fête de la nature au sein du cœur du parc du Vercors peut-être exister à un autre moment. Enfin, c'est une idée, hein.
Alors c'est toujours intéressant de se greffer sur un événement national, parce que on en parle au niveau national. Ce matin en montant, j'entendais Radio France Drôme qui parlait de la fête de la nature dans la Drôme. On peut imaginer qu'il y avait la même chose sur l'Isère, parce que les fêtes de la nature sont relayées au niveau local par les départements. Donc il y a une aura du Vercors. Après, pour faire venir les gens ici, alors je vois deux facteurs. C'est-à-dire que bon, il y a le lieu. Le Vercors est une image nature et faune qui est très importante. Donc on rejoint l'idée de la préservation et du patrimoine naturel qu'on a, qui est très riche. Et donc c'est une image très forte, le Vercors, par rapport à la faune et à la flore.
Alors c'était une image très forte aussi pour la spéléologie.
Exactement, oui.
Ah, donc
oui,
il y avait un festival ancestral ouais. aussi,
spéléologie. Dans les années, on va dire, les 78-80.
Mais tout ça, c'est vrai que c'est vraiment, on sent le sport de plein air, la spéléologie, la nature, j'allais dire, l'observation, l'approche de l'animal, mais aussi le cadre. Monsieur le maire, vous avez vraiment un lieu magnifique.
Donc, ah, oui, c'est vrai, pour ça, tout à l'heure, je remerciais les aînés qui ont su nous préserver ça, et nous, on essaie de le maintenir, parce que sans eux, ça ne serait peut-être pas possible.
D'accord. Et donc, je vous ai coupé un petit peu. Cette fête de la nature au niveau national et local, vous la voyez pour les années à venir aussi, quand ça continue, parce que quand on commence quelque chose et que ça commence bien, on ne va pas l'arrêter.
Alors aujourd'hui, c'est dur, ça, non, c'est dur de vous répondre parce que l'énergie qu'on a mis dedans, c'est assez énorme. Donc on a un petit coup de fatigue aujourd'hui, faut l'avouer.
Ah, mais ça, c'est parce que vous avez fêté les 20 ans de Multrace.
Non, pas que, mais bon, l'enthousiasme est là, c'est évident qu'on aura envie de continuer, compte tenu en plus que manifestement le public répond à l'appel, le tam-tam a fonctionné, le bouche-à-oreille a fonctionné, enfin le bouche-à-oreille même moderne par l'intermédiaire de tous les réseaux sociaux, ça a bien fonctionné, on voit arriver des gens qui viennent de loin aujourd'hui du week-end, des gens qui ont dû réserver leur week-end, qui sont partis de régions parisiennes, de l'Est, qui ont traversé la France de partout pour venir ici.
Bah, vous ne nous empêcherez pas de revenir l'année prochaine alors.
Non, ça sera un peu la fin.
Alors je ne sais pas si le renard restera l'animal emblématique et j'espère qu'on va évoluer sur sa situation. On verra ça cet après-midi avec l'ASPA, association qui défend. Tu peux me donner un peu l'acronyme, non ? Parce que c'est un peu compliqué moi l'ASPA. Ça me fait toujours penser à un truc de sécurité sociale, mais c'est pas grave. Ça c'est ma provocation. Oui, bon, c'est pas grave. Et autre puant, non ?
La sauvegarde. L'ASPA, association pour la sauvegarde et la protection des animaux sauvages.
Voilà. D'accord. Ben, très bien. Alors, je vous remercie tous ces invités. Je vous remercie en tout cas de ce côté positif que nous apporte la nature. Parce que la nature nous change aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un combat en permanence. On peut aussi, en faisant aussi ses poireaux, certains leurs poules, d'autres en allant à la chasse, d'autres à la pêche, d'autres en astiquant un petit peu leur objectif. La nature apporte aussi une forme de sérénité à tous.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. La fête de la nature, elle prend, comme on dit, en gros, les chasseurs, les pêcheurs, les promeneurs, tout. C'est vraiment, ça doit rester la fête de la nature. Voilà.
Donc, et surtout que là, avec le soleil, elle nous permet d'être dehors, ce qui n'est pas toujours le cas quand même, il faut le dire, monsieur le maire. C'est quand même difficile des fois sur le Vercors d'organiser des événements de plein air.
Le Vercors, il fait toujours beau. Si c'est pas au soleil, c'est dans le cœur.
Merci, ce sera le mot de la fin. Merci, on veut l'applaudir.
Merci tous ces intervenants fort intéressants pour l'organisation de cette manifestation, entre autres.
Oui, moi je pense que c'est énergie. C'est un acte civique, hein, c'est-à-dire qu'en fait les gens se défendent leur milieu et leur patrimoine. Je crois que c'est important qu'on le montre en grand public. Et en plus, le grand public a vraiment bien aimé. Hein, et je pense qu'il y a une volonté publique. On a entendu le maire de la Chapelle, on a entendu ses représentants d'associations. Je crois qu'il y a vraiment cette volonté de vouloir faire quelque chose. Alors, c'est pas savoir si on est pour ou contre. L'important, c'est d'être et de faire. Voilà. Et puis après, bien évidemment, cette fête de la nature a amené des personnes très intéressantes. C'est pour ça que dans Expansion de Voix, on va vous en faire profiter la prochaine fois. Donc, on aura le volet avec trois associations un peu extraordinaires et atypiques. L'ASPACE.
L'association de protection des animaux sauvages.
Voilà, qui a pris le pas de protéger les animaux sauvages. On aura aussi dans le même cadre, mais disons plus technique, donc les hôpitaux pour les animaux sauvages, qui est
L'UFCS, l'Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage.
Alors tout ça, beaucoup bien sûr de bénévolat, de gens compétents, enfin de gens qui... voilà, qui veulent défendre un petit peu le, j'allais dire le prochain, ça fait un peu curé, mais c'est vrai que la nature, c'est notre prochain, enfin le prochain des générations à venir. Et puis, on avait aussi, bien sûr, la FOL, la Fédération
la,
des...
La LPO,
pardon, Annette. La... n'importe quoi. La LPO, donc la Ligue Protection des Oiseaux et de la Biodiversité. Enfin, et avec toutes ces personnes, on fera le topo pourquoi et comment on peut peut-être changer le statut de cet animal mal aimé et pourtant bien utile qui est le renard. Mmh. Voilà, donc autour de cette petite bête bien sympathique, les passions se mettent en place et vont doucement dans la nuit. Voilà.
Alors à très bientôt. And if you're in love, then you are the lucky one. Cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing them. But I'm forever missing him.